RMC jusqu'à 14h, Motors, Patrick Rivet.
Salut à tous, bienvenue nous retrouver dans une nouvelle édition de Motors avec la Formule 1. On donnera quelques petites nouvelles de Niki Lauda également dans quelques instants avec Jordan Olivier. On accueillera bien sûr l'expert Jean-Luc Roy pour nous développer la grosse info de la semaine, à savoir le transfert de Daniel Ricciardo au sein de l'écurie et Renault. On va y revenir longuement. Un petit peu plus tard dans cette émission, on aura également avec nous Freddy Forêt, tout simplement le tout nouveau, un des tout nouveaux champions du monde d'endurance moto, avant de retrouver comme toujours Radio Paddock et Benoît Boutron en fin d'émission.
RMC Motors.
Allez, c'est parti pour la Formule 1. C'est parti pour la Formule 1 et on va aller déjà, avant même de commencer la Formule 1, les championnats d'Europe multidisciplinaires, et on va aller avec à Glasgow retrouver Morgan Mori. Morgan, en environ, deux Français sont en course, Mathieu Arodias et Hugo Boucheron dans la catégorie 2 couple. Morgan, quelques nouvelles de nos Français?
Oui, plus que 100 mètres, les deux Français qui sont en tête. Les derniers coups d'aviron à la lutte avec l'équipage roumain, avec l'équipage britannique pour Mandieu, Andro Dias et Hugo Boucheron. Ça va jouer à la photo finish, Patrick. Les bouées dans un instant pour les deux Français. Ils sont champions d'Europe. Deuxième médaille d'or pour l'équipe de France d'aviron dans ces championnats d'Europe. Après le 2 couple féminin, eh bien c'est le 2 couple masculin avec Mathieu, Andro Dias et Hugo Boucheron. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Une énorme accélération dans les 500 derniers mètres. Ils étaient quatrième et le finish à la française, comme les filles hier, même scénario de course, ils ont remonté leur adversaire pour l'emporter. Une Marseillaise dans quelques instants à Glasgow, Hugo Andro Dias et Mathieu Boucheron, médaillé d'or.
Eh bien c'est formidable, merci Morgane. Et on va tout de suite passer à des informations bien sûr concernant la Formule 1. Déjà, évidemment, j'accueille Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Patrick, bonjour à tous.
Jean-Luc, on a une grosse actu hein, cette semaine. On pensait que l'on allait revenir sur le Grand Prix de Formule 1. On pensait que dans les 3 semaines qui allaient venir, c'est la pause, on le rappelle, en Formule 1, avant le Grand Prix de Belgique, lors du dernier week-end du mois d'août, on pensait qu'on allait développer comme ça des choses tranquilles, revenir un petit peu sur les transferts. Et on s'aperçoit que, ben non, on va tout de suite les aborder, ces transferts, avec une très très grosse information. On l'a dit, c'est l'arrivée en 2019 et pour 2 ans de Daniel Ricciardo au sein de l'équipe Renault. Jean-Luc, si tu veux bien, on va commencer avec Jordan Olivier, qui est à mes côtés, pour nous parler d'une autre info beaucoup moins intéressante, beaucoup moins sympathique. On sait que Niki Lauda était hospitalisé pour une opération, carrément une grève de poumon, et Jordan va revenir un petit peu sur tout ça. Salut Jordan.
Bonjour à tous. Et oui, Niki Lauda a subi jeudi effectivement une transplantation pulmonaire à l'hôpital général de Vienne. La légende de la F1 avait été transportée depuis Ibiza, où il était en vacances après avoir contracté un virus. Son état évolue de façon assez positive, a indiqué Walter Klepko, qui est le chirurgien qui l'a opéré, avant d'ajouter que la convalescence peut cependant prendre un peu de temps en raison de l'âge de l'ancien pilote. Depuis l'opération, de nombreux messages de soutien sont parvenus au triple champion du monde, Toto Wolff notamment, qui se dit convaincu que Niki Lauda ira bientôt mieux et qu'il dira aux infirmiers et médecins qu'il en a marre de l'hôpital. C'est effectivement tout ce qu'on peut souhaiter à Niki Lauda.
Merci Jordan. C'est vrai Jean-Luc, hein, ça a été aussi carrément une info assez importante pour nous, le monde de la Formule 1. Niki Lauda, c'est quand même un triple champion du monde. C'est le vice-président non exécutif de Mercedes. C'est une figure des paddocks. Déjà on lui souhaite, nous aussi, bien sûr, le plus prompt rétablissement. Parce que franchement, une telle opération, c'est quand même quelque chose de grave. On sait que ses poumons étaient touchés en 76, hein, dans son accident sur le circuit du Nürburgring. Donc quoi qu'il arrive, nous aussi, on a envie de souhaiter le meilleur à Niki Lauda, Jean-Luc.
Oui, bah bien évidemment, tu as raison de commencer par là, parce que c'est quand même une opération énorme, hein, une grève du poumon, on imagine bien toutes les conséquences que ça peut engendrer. Il a 69 ans, Niki Lauda, donc ses titres de champion du monde, ses 3 titres, c'était en 75, avant son terrible accident sur le circuit du Nürburgring en 76, où il était évidemment en bataille avec Jameson. Je dis évidemment parce que je pense que beaucoup des auditeurs de RMC et de Motors ont vu le fabuleux film Rush, qui est un film de Ron Howard, un film formidable, je vous engage à le voir.
Mais oui.
Parce que là vous découvrirez mieux la personnalité de Niki Lauda, qui est, c'est peu de le dire, un dur à cuire. La preuve, après ce terrible accident où il avait donc brûlé dans sa voiture, hein, sur le Nürburgring. Il avait failli perdre la vie. On lui avait même administré l'extrême onction, c'est pour te dire, c'est-à-dire qu'il était aux dernières limites. Et puis, il s'est battu, il est revenu. Et une cinquantaine de jours seulement après cet accident, eh ben, il était à Monza pour la rentrée, pour prendre part au Grand Prix avec sa Ferrari et défiguré comme c'est abominable. Et Niki Lauda a eu cet aveu incroyable parce qu'il a participé au tournage de ce fameux film de fiction, hein, qui est
oui, bien
une
sûr,
reconstitution.
Mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Qui était effectivement très bien, qui a un petit peu démocratisé, entre guillemets, ce duel que l'on a connu, nous, les experts, comme l'on dit, en 76.
Eh ben voilà, exactement, ça l'a rendu public et moi j'enjoins vraiment tout le monde à le regarder parce que non seulement évidemment ce film va passionner les fans de Formule 1, mais pas seulement parce que c'est une histoire humaine entre deux personnalités très fortes, celle de Niki Lauda, donc qui est un Autrichien un peu, je dirais un peu obscur, un besogneux sans que ce soit du tout méprisant, au contraire, et puis James Hunt, le flamboyant, le pilote britannique, qui sera, bon on connaît la fin de l'histoire, champion du monde à la fin de cette année 76 au Japon sous la pluie parce que Niki Lauda, qui est pourtant, je viens de le dire, un terriblement courageux, bah, préfère s'arrêter après quelques tours, il n'y a aucune visibilité et il a compris que c'était pas son tour, mais il reviendra, il sera champion du monde l'année d'après en 77 et encore en 84, donc avec pratiquement 10 ans d'écart par rapport à son premier titre, ça c'est chez McLaren aux côtés d'Alain Prost. Et bon, c'est un type formidable, en plus moi ce que j'apprécie chez lui c'est son franc-parler,
oui,
et il n'a pas peur, voilà, de donner son avis de manière tout à fait libre et tout à fait directe, et c'est un type formidable, voilà, j'espère vraiment qu'il va retrouver toute sa force et revenir sur les paddocks de Formule 1, nous donner son avis toujours
voilà,
excellent sur la Formule 1.
C'est là-dessus que je voulais rebondir, Jean-Luc, revenir à aujourd'hui, on lui souhaite effectivement, comme on l'a dit, de se sortir de cette opération et de revenir, parce que c'est aussi, on l'a dit, c'est une figure du sport auto, mais c'est aussi une figure qui a toujours de l'importance, qui a des responsabilités chez Mercedes, puis qui a un avis aussi. On pourrait évoquer aussi, si tu veux bien, et revenir également sur un événement encore plus tragique, le décès de Sergio Marchionne, le patron de Ferrari. Ben, ces deux-là, ils avaient une voix, ils avaient une présence, ils avaient de l'autorité. Bon, voilà, ben, il y en a un qui vient de décéder, l'autre qui est plutôt parti pour une longue convalescence, ce sont peut-être deux autorités qui vont peut-être manquer dans les discussions qui vont suivre sur la Formule 1 si on parle un petit peu politique.
Assurément, Patrick, elles vont beaucoup manquer, en espérant encore une fois qu'évidemment Niki Lauda va recouvrer toutes ses forces et va revenir non seulement sur les circuits, mais donner son avis. On en a besoin des gardiens du temple. Tu sais, la Formule 1, et je ne t'apprendrai rien, a beaucoup dérivé, beaucoup trop dérivé ces dernières années, beaucoup trop perdu les fondamentaux, beaucoup trop perdu tout ce qui faisait son succès, d'où malheureusement une désaffection, on le sait bien, d'une partie du public, d'une partie de ses fans, et des gens comme Niki Lauda, je viens de le dire, ce sont les gardiens du temple, ce sont des personnes qui ont une opinion et on les écoute. Et je pense qu'effectivement, face aux dérives peut-être d'une certaine Formule 1 plus paillette et plus marketing, lui c'est un des gardiens du sport en Formule 1 et justement de la rudesse de la Formule 1, de la bataille en Formule 1, et il l'a prouvé, il l'a porté dans sa chair. Donc c'est un type extraordinaire.
Voilà, j'en connais un qui a écrit « il faut sauver le soldat Formule 1 » et c'était un des soldats aussi qui faisait tout pour sauver effectivement l'esprit même de ce sport. L'esprit, on va y rester, Jean-Luc, si tu veux bien, et on va donc revenir et évoquer ensemble l'actu, l'info, mais c'est la canicule chez nous, mais cette info elle est plus que brûlante. Le transfert de Daniel Ricciardo de Red Bull à Renault, alors que il y a une semaine, bon, on était tous là pour dire qu'après tout, il n'a pas trop le choix, l'Australien, il va continuer chez Red Bull, les portes se sont fermées chez Ferrari, les portes se sont fermées chez Mercedes, il n'a pas le choix. Eh bien le choix il l'a pris, et comment?
Exactement, tu as parfaitement raison, il a pris tout le monde à revers. Et surtout son équipe Red Bull. Alors, il a eu des mots très touchants d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu sa petite vidéo, son petit selfie qu'il a posté. On voit bien qu'il est ému parce que c'est la fin d'une histoire, hein. Il a dit, c'est la décision la plus importante de ma vie, carrément, parce qu'il a rompu avec ce giron Red Bull dans lequel il est depuis 2008. Donc après, il est entré en Formule 1, évidemment, au sein, pas tout à fait dans les premiers Grands Prix au sein de l'équipe Toro Rosso à l'époque, mais il l'a fait. Donc, il a côtoyé, évidemment, tous les pilotes Toro Rosso de pointe, à commencer par Sébastien Vettel. Ensuite, il est monté chez Red Bull. Et c'est un type formidable, Daniel Ricciardo. On le dit pas assez, parce qu'il a un très très grand talent. Évidemment, c'est un type qui a la banane tout le temps, c'est son surnom. 7 victoires en Grand Prix, 141 départs, 2 pole positions, 12 meilleurs tours. Ben, clairement, c'est même très flatteur, et je crois que Cyril Abitbol l'a reconnu, pour Renault d'arriver à intéresser un type comme Ricciardo, qui est un potentiel champion du monde, hein. Carrément, il a le talent pour le faire. Alors, il était un peu, je vais pas dire sous l'été noir, parce qu'on a vu à quel point il est ténu en course, et à quel point il est toujours là, et à quel point il est toujours capable de remporter des Grands Prix. Mais c'est clair qu'il a souffert de l'arrivée de Verstappen, parce qu'on a bien compris que chez Red Bull, on avait un peu les yeux de chimène pour Verstappen. Et je pense que Ricciardo en a souffert. Et pourquoi il n'a pas renouvelé le contrat, à mon avis, bah c'est un manque de considération d'argent aussi, parce que Verstappen, on l'a fait un pont d'or. Mais je crois que Ricciardo, bah oui, c'est un très bon choix. Le moment est venu d'aller voir ailleurs.
Alors justement, tu as évoqué quelque chose et je vais te relancer là-dessus. Juste quelques petits chiffres. 141 Grands Prix, 7 victoires, 2 pôles, 13 meilleurs tours, 29 podiums, 934 points marqués, 11 Grands Prix avec HRT, on s'en rappelle, c'est tout juste, on s'en rappelle que ça existait, Toro Rosso 39 et 91 effectivement dans le Grand Prix avec Red Bull. Effectivement, c'est quand même une longue partie de carrière. Et moi, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, à savoir, on a beaucoup parlé justement dans les semaines qui ont précédé cette annonce, que bah, les négociations étaient plutôt au niveau du salaire, puisque, comme tu l'as dit, pont d'or à Verstappen. Bon, un, forcément, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte, et deux, ouais, il a dû se dire, effectivement, comme tu l'as dit, que au sein de Red Bull, il ne serait pas forcément considéré dans les années à venir comme un potentiel champion du monde possible.
Et voilà, je crois que c'est manque de considération, tu vois, c'est vraiment l'expression, à mon sens, qui convient, parce qu'évidemment, ben, ça se traduit là aussi par le salaire, mais il faut pas croire que Ricciardo s'en va pour des raisons financières. Il s'en va parce que clairement, il a senti, et sûrement, il a évidemment beaucoup plus d'autres informations que nous, hein, que on misait sur Verstappen, sur l'avenir, sur un tout jeune pilote flamboyant, même si Ricciardo en course n'a pas son pareil, hein, c'est un type extrêmement solide. Quand même 118 points au championnat du monde. Pour le moment, bah, que je sache, il en a plus que Verstappen, hein, qui n'en a que 106. Donc voilà. Donc Ricciardo, c'est un solide finisseur. Et moi, je pense que dans cette équipe Renault, qui progresse d'année en année, de saison en année, aux côtés d'un pilote allemand solide et lui aussi méconnu, Hülkenberg, bah, les deux hommes vont se pousser. Et je pense que c'est une décision qui est très très lourde de conséquences, parce qu'évidemment, comme toujours en Formule 1, il y a le jeu des chaises musicales derrière.
Alors, on va dans quelques instants, justement écouter ce qu'a dit Cyril Abitbol sur cet engagement. Juste une petite remarque, est-ce que également il aurait pu, je parle de Ricciardo toujours, ne pas avoir forcément confiance au package Honda dont va disposer Red Bull la saison prochaine?
Écoute, c'est clair que c'est un élément qui a joué, bien sûr, un élément important, puisqu'il connaît le moteur Renault pour l'utiliser depuis plusieurs saisons. Il en connaît les limites, évidemment. Il n'est pas pour le moment toujours au niveau des moteurs Mercedes et Ferrari, puisqu'il semblerait depuis quelques Grands Prix que c'est maintenant le Ferrari qui soit la référence. Mais il n'en est pas très loin. Et quoi qu'en dise Christian Horner, avec la casse de Verstappen, où là aussi on a entendu un torrent même d'injures se déferler sur Renault. Bon, il connaît les qualités du moteur Renault, il travaille avec eux depuis longtemps, et oui, tu as raison, je pense qu'il doute encore un peu du potentiel de Honda, en tout cas à court terme, même si Honda progresse énormément avec Toro Rosso. Je pense que ce sera encore un peu court, en tout cas au moins pour 2019, voire pour 2020. Donc oui, il a choisi de monter d'un cran, en tout cas en termes de performance moteur, oui, ça tu as raison.
Alors justement, il part, il a quitté Red Bull, il va chez Renault. Bah pour nous Français, c'est quelque chose d'assez important aussi, puis pour tout le monde de la Formule 1, parce que voilà, enfin Renault nous laisse un petit peu l'impression d'avoir de l'ambition, ce qui n'était peut-être pas forcément complètement, je dirais pas visible, mais on avait peut-être du mal à se l'imaginer. Bah cette fois-ci, c'est quand même Renault va chercher un des meilleurs pilotes du moment, et je vous propose justement d'écouter Cyril Abitbol, le patron de Renault Sport.
Alors bah c'est clair que d'aller chercher Daniel Ricciardo chez Red Bull, c'est pas ce que les gens attendaient forcément de nous, mais ça fait partie du jeu justement de pas être là où on nous attend. Mais en même temps, c'est pas uniquement quelque chose qu'on fait pour un effet de surprise ou de sidération. C'est C'est simplement parce que stratégiquement et sur le moyen long terme, c'est quelque chose qui nous paraît comme étant la décision la plus intelligente aujourd'hui. Maintenant, il faut en faire un vrai succès.
Voilà, effectivement, il faudra en faire un vrai succès. Bon, c'est quand même c'est le coup de l'été, Jean-Luc. Hein, c'est quand même très clair. Et il va forcément amener toute son expérience, Daniel Ricciardo. Et puis, est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu un pied de nez à Helmut Marko, à Christian Horner, quand même? Parce que franchement, là, depuis quelque temps, comme tu l'as dit, c'est carrément les injures qui fusent de toutes parts. C'est le côté. Mais t'as vu, je t'ai piqué ton pilote.
Ah ben c'est clair. Écoute, moi j'avoue que ça m'a évidemment étonnamment surpris, comme tout le monde, comme tu le soulignais. Nous disions encore la semaine dernière que a priori la reconduction du contrat de Ricciardo chez Red Bull n'était qu'une formalité. Eh ben non, il a pris tout le monde à contre-pied, y compris ses dirigeants. Et je pense qu'effectivement Helmut Marko, qui est la tête pensante de Red Bull, c'est lui qui drive les pilotes, c'est lui qui joue le marché. Et Christian Horner, qui est souvent très méprisant vis-à-vis de Renault en l'occurrence et vis-à-vis des autres. Là, ils ont pris un sacré coup dans le casque, dans la tête. Et puis Ricciardo, j'espère, va leur démontrer avec Renault qu'il y a une autre voie possible. Et puis aussi que avec ce moteur Renault dans une Renault, il y a peut-être moyen de faire beaucoup mieux que quatrième au championnat du monde, qui est pour le moment l'ambition de l'écurie française, et pourquoi pas de venir jouer dans la cour des grands. Nous allons voir ce que la grande équipe Red Bull est capable de faire avec le moteur Honda à partir de 2019. On peut rigoler un peu.
Absolument. Et puis Cyril Abitbol, toujours lui, a évoqué effectivement aussi le fait que ce n'est pas tous les jours non plus qu'on a sur le marché un tel pilote. On l'écoute.
Daniel Ricciardo était une opportunité trop grande pour être manquée. On ne pouvait pas se permettre de la laisser passer. On sait que c'est ce genre de rendez-vous, ça se passe une fois tous les deux ou trois ans. La prochaine fois que le train des top drivers allait passer, c'était peut-être pas avant 2021. Je pense qu'on n'avait juste pas le choix. C'est également une expérience qui va maintenant mettre au profit de notre équipe, stratégiquement et sur le moyen long terme. C'est quelque chose qui nous paraît comme étant la décision la plus intelligente aujourd'hui. Maintenant, il faut en faire un vrai succès.
Voilà, effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'un pilote vainqueur de Grand Prix se retrouve sur le marché. Là, tu le disais tout à l'heure, il fera équipe avec Nico Hülkenberg, qui cette année fait encore équipe avec Carlos Sainz Jr. Deux pilotes qui ont Hülkenberg a quand même pas mal de Grand Prix sous les fesses, dans le baquet. C'est un petit peu moins pour Carlos Sainz. Là, cette fois-ci, on va chercher un pilote qui, comme on l'a évoqué également un petit peu plus tôt dans cette émission, ne lâche jamais rien. Et d'ailleurs, Daniel Ricciardo, parmi ces victoires de Grand Prix, les plus belles justement, ce sont celles durant lesquelles il n'a jamais abdiqué, n'a jamais abandonné, et où à la limite, parfois on peut penser que la victoire, il en hérite parce que les autres ont eu des soucis, mais il faut être présent quand les autres ont des ennuis, et il sait très bien faire ça.
Ah écoute, oui, si tu me permets, moi je considère que c'est même l'inverse. C'est un type qui est un teigneux, mais pas possible. Encore une fois, il est peut-être paradoxalement desservi parce que il a la banane tout le temps. C'est rare qu'il ne sourie pas. C'est un type sympa, voilà. C'est un type sain, c'est un type normal. Qu'est-ce que ça fait du bien à la Formule 1 là aussi. Et tu l'as dit, 7 fois vainqueur en Grand Prix, 2 fois cette saison. Moi, je pense que avec une formidable expérience, donc 141 Grand Prix. Et d'ailleurs, on peut comparer puisque Hülkenberg en a 147. Mais voilà. Hülkenberg n'a jamais gagné. Alors, il n'a pas été dans l'écurie qui lui permettait de le faire. Hein. C'est pas un reproche. Mais on a là un potentiel champion du monde. Et je pense que ça va également pousser Nico Hülkenberg dans ses derniers retranchements. En plus, je l'ai dit, Ricciardo, il vient de fêter ses 29 ans. Écoute, il est pile à maturité. C'est un super choix. C'est un super coup de la part de l'équipe Renault et de Cyril Abitbol. Il faut bien le dire et le répéter.
Ah bah, tu sais pas, Cyril Abitbol, il est d'accord avec toi. On l'écoute.
Son expérience en particulier acquise dans une des meilleures équipes aujourd'hui qui est Red Bull. C'est également une expérience qui va maintenant mettre au profit de notre équipe. Il va nous apporter des éclairages sur les développements de la voiture, des priorités. Et en plus, il a un tempérament de racer complètement hors commun. Il va nous transcender tous. Il va même transcender, je pense, Nico Hülkenberg, son coéquipier, qui est, à mon avis, un des meilleurs pilotes du plateau, mais qui a besoin aussi d'avoir à côté de lui un coéquipier qui le pousse, qui repousse ses limites. Et je pense qu'on va avoir un duo de line-up, un duo de pilotes qui va être absolument exceptionnel l'année prochaine.
Eh ben voilà, vous êtes d'accord tous les deux. Ce que je te propose, Jean-Luc, c'est que l'on se retrouve dans quelques instants pour évoquer les conséquences de ce transfert, en particulier pour les couleurs françaises.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Patrick Rivet.
On reste en Formule 1, bien sûr, et on va évoquer dans quelques instants les couleurs françaises.
RMC Motors, le French's Corner.
Et on est toujours avec Jean-Luc Roy. Jean-Luc, pour évoquer, on va rester un petit peu dans ce transfert de Daniel Ricciardo, parce que une fois que on a positionné Ricciardo aux côtés de Nico Hülkenberg chez Renault, eh bien forcément, cela rejaillit sur les ambitions, les espoirs et sur les carrières de d'autres pilotes. Celui de Carlos Sainz, ça c'est clair, qui était avec lui, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse ici, sur les couleurs françaises, Esteban Ocon, a été envisagé chez Renault, pour l'instant, on est à peu près certain qu'il n'y sera pas, et puis quid également de Pierre Gasly, qui nous fait une super saison chez Toro Rosso. Voilà deux noms, on est quasi obligé, Jean-Luc, d'évoquer le futur de ces deux sacrés pilotes français qui sont en Formule 1.
Alors oui Patrick, tout à fait. Si tu veux bien, on va commencer par celui pour lequel cette nouvelle du transfert de Ricciardo peut être positive, c'est Pierre Gasly, évidemment. Pourquoi ? Parce que Pierre vient encore de réaliser une excellente performance au Grand Prix de Hongrie. Il a marqué à chaque occasion, et notamment à Monaco, qu'il a pu le faire avec la Toro Rosso à moteur Honda dont il dispose. Il enchante vraiment son équipe. Il est au mieux avec Helmut Marko, tu me vois venir. Comme il va y avoir évidemment un baquet à combler du côté de chez Red Bull, de l'équipe de pointe, et puis pareil, peut-être qu'on se dit aussi que ce bon Verstappen, c'est peut-être pas mal de lui mettre un autre jeune loup aux dents longues à côté. Donc ce serait formidable si Pierre Gasly, après une saison complète en Formule 1, montait de Toro Rosso à Red Bull. Et puis là, on peut dire que la filière, elle s'exercerait à plein. Alors le seul bémol qu'il puisse y avoir pour Pierre, c'est Carlos Sainz, évidemment, Carlos Sainz Junior, qui lui, on l'a bien compris, on l'avait compris depuis longtemps d'ailleurs, se trouve écarté de chez Renault. Il était prêté à Renault. Alors il y a une option qui subsiste de la part de Red Bull. C'est toujours un peu compliqué, ces histoires de contrat, jusqu'à la fin du mois de septembre. Moi, je vois peut-être Carlos Sainz plutôt partir chez McLaren. Alors, à la place de qui, là, on va voir où McLaren se retrouve, parce que là, tout est entre les mains de Fernando Alonso, quand je te dis que c'est les chaises musicales. Donc, Carlos Sainz allait chez McLaren, Pierre Gasly chez Red Bull aux côtés de Verstappen, ça aurait sacrément de la gueule.
Effectivement. Alors, c'est clair que Carlos Sainz, c'est un pion important dans cette partie d'échec, sur cet échiquier. Il est clair aussi que, je me rappelle bien la semaine dernière avec Adrien, vous évoquiez ensemble les trépignations de papa Carlos Sainz, parce que c'est un nom quand même aussi, Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes, qui a gagné le Paris-Dakar, ce n'est pas n'importe qui, il est là, il est présent, pas très loin de son fils. On peut penser quand même qu'un personnage comme celui-ci essaiera, quoi qu'il arrive, d'être le plus influent possible pour que son fils n'aille pas dans une équipe qui végète un petit peu, puis qui est à la limite pas très en forme, McLaren, et pour qu'il aille chez Red Bull.
Eh oui, mais si tu veux que je te donne vraiment mon avis, on est là pour ça.
Eh ben oui, c'est bien pour ça que je te pose la question.
à mon avis, Pierre Gasly, je le souhaite d'une part et je l'espère. J'ai rien contre Carlos Sainz, encore une fois, mais je pense qu'il a une longueur d'avance. Ne pas se rappeler les critiques de Carlos Sainz à l'égard de son équipe Toro Rosso l'an dernier, c'est pour ça qu'on l'a prêté à Renault, Donc on l'a sorti temporairement peut-être de la filière. Donc maintenant, réintégrer la filière, effectivement, c'est-à-dire revenir chez Red Bull, en plus aux côtés de Verstappen. Il s'entend pas bien du tout avec Verstappen à titre personnel, évidemment. Là aussi, tu mets pas deux jeunes loups dans la même bergerie. Donc je pense que l'option Gasly, pour moi, je vais me mouiller, c'est du 60-40, si c'est pas 65-35 en faveur de Gasly. Et je l'espère de tout cœur. Donc je vois plutôt Sainz, tu parlais du papa, tu parlais du côté espagnol, le rêve de Carlos Sainz Junior, en l'espèce, ce serait de se retrouver évidemment aux côtés de Fernando Alonso, son idole de jeunesse, chez McLaren. Voilà une solution.
Effectivement, sachant qu'à la limite chez McLaren, moi je rajouterais une chose, qu'il peut y avoir deux baquets à trouver, parce que rien ne dit qu'Alonso n'ira pas en IndyCar. On a encore parlé de cela dans les émissions précédentes. En gros, aujourd'hui il a une opportunité extraordinaire d'aller faire la triple couronne. On ne voit pas pourquoi il resterait chez McLaren. Alors la question que je te pose aussi, et si c'était Alonso qui allait chez Red Bull, non, là on oublie.
Oui, non, ça j'y crois pas une seconde. Non, là t'as raison, pourquoi pas les
supputations. Non mais c'est, voilà,
on ne peut pas écarter un type du talent de d'Alonso. Écoute, j'y crois pas pour pour plusieurs raisons, il est pas dans cette optique-là. C'est pas du tout l'optique de Red Bull. Alors ils peuvent changer de politique, hein, mais d'aller recruter un double champion du monde comme ça, même si encore une fois, j'imagine, et tu as raison, qu'on peut considérer cette option. Je crois que Fernando, avant tout, il a fêté ses 37 ans. Il en a un peu ras-le-bol de la Formule 1. Il ne rate pas une occasion de le dire. Il s'amuse plus, clairement. Et ça reporte à ce que j'ai évoqué malheureusement tout à l'heure. Quand un type du talent et de l'enthousiasme de Fernando Alonso te dit que c'est un peu une purge actuellement de piloter ces monoplaces-là, avec toutes ces contraintes de consommation, de pneumatiques. Enfin, le talent du pilote n'a plus vraiment d'espace pour s'exercer. Et puis, tu l'as souligné, la triple, et je te dis, moi, j'ose même dire la quadruple couronne qui n'existe pas, mais il est double champion du monde de Formule 1, il est vainqueur du Grand Prix de Monaco, il est vainqueur des 24 Heures du Monde depuis cette année, ça lui ferait une quatrième étoile si jamais il remportait les 500 miles d'Indianapolis et il y a participé l'an dernier, il aurait même pu.
Exactement, et puis pour terminer rapidement, il faut savoir aussi que quand on gagne les 500 miles d'Indianapolis, avec les points qui comptent un petit peu plus, on n'est pas loin d'être titré aussi à la fin de saison champion IndyCar, ce qui serait... quelque chose de fabuleux, on se rappelle de Nigel Mansell, hein. Alonso peut nous faire une Mansell. Info, Andretti lui a donné quand même un ultimatum au 19 août pour la course de Pocono. J'ai encore une petite question justement par rapport à Pierre Gasly, qui connaît le moteur Honda. Ça serait dommage aussi de la part de Red Bull, pour abonder dans ton sens, qu'une équipe comme Red Bull n'aille pas engager un pilote qui aura passé une saison avec Honda chez Toro Rosso.
Mais parfaitement, excellent argument de plus, puisque Pierre Gasly a les meilleurs rapports, encore une fois, il travaille dans un bon esprit, intelligemment, et donc il aura cette expérience du moteur Honda qu'il apportera à Red Bull, puisqu'on sait bien que c'est signé pour au moins 2 ans avec Red Bull et Honda, donc tout à fait, c'est un atout supplémentaire, alors qu'effectivement, Carlos Sainz, puisqu'on les oppose tous les deux, ou ils sont en concurrence plus exactement, ne connaît pas le moteur Honda, non, tout porte à penser qu'on va aller de ce côté, et puis si tu me permets, pour terminer rapidement, quid d'Esteban Ocon, c'est vrai que là, les options se referment, alors espérons que l'équipe Force India, qui, on le sait, en redressement judiciaire, trouvera une solution financière, il paraîtrait qu'ils sont plusieurs, et notamment, on l'a dit plusieurs fois, finalement, le papa de Stroll, Lawrence Stroll, le milliardaire canadien, achèterait Force India, il amènerait le fiston, évidemment, donc espérons qu'ils conserveront Esteban Ocon, et puis, quid de Charles Leclerc, Charles Leclerc, on sait bien que lui aussi, Sergio Marchiot, que tu évoquais tout à l'heure, il aimait beaucoup Charles Leclerc,
il pensait à l'avenir,
et dans la Ferrari, et voilà. Et
je te propose, donc, Jean-Luc, pour conclure, d'écouter justement ce que nous a déclaré Cyril Abitbol à propos d'Esteban Ocon, et puis je reviendrai vers toi tout de suite pour conclure ensuite cette page F1 et déjà se donner rendez-vous pour la semaine prochaine avec déjà quelques questions. À tout de suite. Pour en écoute
nous
déjà.
Cyril Abitbol. Directement confirmé cette possibilité d'Ocon, mais même si effectivement Esteban était sur notre shortlist et depuis longtemps, on avait essayé l'année dernière, ça n'avait pas fonctionné. Esteban aurait été chez nous justement prêté par Mercedes avec tout ce que cela implique et finalement Daniel Ricciardo était la seule option, en plus d'être je pense la meilleure, la seule option d'un pilote complètement libre qui devenait un pilote 100% Renault et c'est ce qu'on est en droit de prétendre à ce stade de notre développement.
Voilà donc ce que annonçait Cyril Abitbol à propos d'Esteban Ocon. Ce dossier Esteban Ocon, mais moi je te propose une chose Jean-Luc, c'est qu'on se le garde au chaud pour le Franchise Corner de la semaine prochaine, tout simplement, au moment de se retrouver pour une grosse nouvelle page F1, en espérant, faut-il d'ailleurs, ça serait super sympa, que l'on reste dans les grosses chaleurs, des grosses annonces, comme ça a été le cas cette semaine. Merci en tout cas Jean-Luc.
Avec plaisir, bonne émission, salut Patrick, salut à tous.
Allez, dans quelques instants, on va retrouver Freddy Forêt, champion du monde d'endurance moto.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Allez, on va passer sur deux roues. Vous le savez, c'est un week-end plutôt chargé également pour nous en actualité deux roues, puisque se déroule en ce moment le Grand Prix de République Tchèque en MotoGP. On retrouvera d'ailleurs Benoît Boutron dans quelques instants pour nous donner quelques infos. Mais on va retrouver un pilote qui a une semaine en terre japonaise sur le circuit de Suzuka est devenu champion du monde d'endurance moto. C'est Freddy Forêt. Salut Freddy.
Bonjour à tous.
Merci d'être présent sur l'antenne d'RMC pour évoquer ce titre qui n'est pas le premier. Alors comme ça, Freddy, on s'habitue.
On s'habitue, ça faisait un petit moment que j'attendais, ça faisait 6 ans, parce que le dernier c'était en 2011. Mais celui-ci, je pense qu'il a encore plus de valeur, parce que c'est avec un team qui avait jamais été champion du monde, donc ça fait vraiment plaisir.
Voilà, on rappelle hein, cette équipe TSR FCC japonaise que tu as retrouvée, que tu as trouvée, surtout, enfin surtout qui t'a trouvée en début d'année.
Oui, alors en fait j'étais sur la 111, donc l'autre Honda officielle l'année dernière, et j'ai pris la décision de partir. J'ai pris un petit peu de risque, et puis cette moto, ils avaient que 2 ans d'expérience sur le championnat du monde d'endurance, mais ils montraient sans arrêt un gros potentiel. Donc j'ai pris la décision d'y aller. Pour être honnête, je pensais vraiment pas que ça allait marcher aussi vite. Bon, enfin, c'est que du plaisir, et ces Japonais-là sont très réactifs, et ils se sont énormément servis de mon expérience pour avancer extrêmement vite sur tout ce qui est ravitaillement et stratégie de course.
Alors cette équipe, effectivement, alors faut rappeler rapidement, je rappelle rapidement, Freddy, que l'endurance moto, il y a quelques années, c'était sur une saison classique, sur une année calendaire. Depuis 2 ans, c'est passé à cheval entre les années calendaires. Donc en 2016, cette équipe a terminé 7e du championnat, équipe qui a déjà gagné à plusieurs reprises dans les années 90 les fameux 8 heures de Suzuka. 4e quand la saison est passée 2016. 2017, et donc pour cette troisième apparition, c'est carrément le titre. Déjà, comment fait-on pour s'intégrer à une équipe internationale, mais surtout japonaise, parce que on sait qu'ils sont pas forcément faciles à comprendre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas simplement une question de langage. Parfois, s'entendre et bien comprendre ce qu'ils veulent, c'est pas toujours simple.
Non, c'est exactement ça. Donc, alors si je peux me permettre, je crois la dernière victoire à Suzuka, c'était en 2012. Donc
oui, 2012, pardon, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Donc oui, c'est je pense que j'ai découvert. J'ai longtemps travaillé avec un team anglais. Je suis arrivé dans un team japonais où la culture est complètement différente. Vraiment, j'ai vu une différence entre les Européens et les Japonais. C'est vraiment totalement différent. Ça part, c'est beaucoup sur la confiance. C'est bizarre. Ça peut paraître bizarre, mais il y a plus un esprit de famille qu'on peut retrouver comparé à un team européen. Donc ça, je pense que c'est ça qui fait l'avantage, parce que dans un championnat d'endurance, dans une course d'endurance, on a besoin d'être solidaires les uns avec les autres, que ce soit les pilotes et que ce soit les teams. Donc voilà, donc ça c'était déjà très surprenant de ma part. Et ensuite, oui, c'est sûr que le langage, il parle très bien l'anglais, mais avec un accent qui est très prononcé. Donc je peux vous dire que les premiers... Le premier restaurant qu'on a fait ensemble, je pense que c'était à mourir de rire. Heureusement que j'avais mon coéquipier Alan Tusher qui était avec moi, parce que sinon j'y comprenais rien. Mais voilà, après on s'adapte rapidement, on veut tous la même chose, on voulait gagner. Et donc quand tout va dans le bon sens, on arrive à se comprendre très rapidement.
Effectivement, alors je reviens effectivement, début de cette équipe c'était des années 90, et je reprends première victoire Suzuka 2006, et ensuite 2011-2012, voilà, je corrige parce que il faut le faire, et puis tu viens de le dire, Alan Tusher mais également Joshua Hook, l'Australien était tes partenaires, tu n'es pas tout seul bien sûr en endurance, mais ça me faisait plaisir moi de t'avoir au téléphone pour fêter tout ça. Retour sur cette saison donc qui commence par une 5e place au Boulder, ensuite... Pardon ?
6e place.
6e place, exactement, oui. C'est ça, 6e place au Boulder, et qui continue avec une victoire et des victoires donc dans cette saison. Voilà, on n'est pas champion du monde par hasard hein. Il faut bien aussi qu'il y ait des victoires dans cette saison qui est assez courte en plus.
Oui, c'est ça. Alors en fait quand ça a commencé au Boulder, pour être honnête, moi je débarquais dans le team. On savait pas trop où est-ce qu'on pouvait être à la fin de la course, et en fait on a été très surpris parce que jusqu'à 20 heures de course on s'est battu pour la victoire. Malheureusement on a eu une chute qui nous a fait terminer 6e, mais en tout cas ça nous a permis de travailler tout l'hiver extrêmement avec beaucoup de confiance, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner la course. Ensuite il y a les 24 heures du Mans. Alors les 24 heures du Mans, les gagner, je pense que c'est quasiment aussi important que de gagner un titre de champion du monde.
C'est clair.
Parce que c'est une course mythique, c'est une course de 24 heures. Je les avais déjà gagnés auparavant, mais je sais la difficulté, ce que c'est de gagner une course de 24, parce que je pense que, à la différence de beaucoup de sports mécaniques, dans une course de 24 heures, on a vraiment besoin de chance à un moment donné, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui casse un moteur devant nous, on peut avoir plein d'aléas où la chance rentre en compte. Alors c'est assez difficile c'est très simple à expliquer. Normalement, quand on est dans une course de vitesse, la malchance n'existe pas. En tout cas, si on n'a pas de chance, c'est qu'on l'a provoqué. Et là, c'est exactement pareil, simplement en endurance. Il nous faut le facteur chance. Donc gagner cette course-là, un petit peu à la surprise générale, parce que pour être honnête, on se bagarrait pour un podium et non pas pour la victoire. Je pense que ça a été le gros déclic. C'est là où on a récupéré la tête du championnat. Et ensuite, Honda Japon et le HRC, donc le service course Honda japonais, a décidé de nous soutenir à 100%. Et donc ils nous ont mis à disposition la moto. Officiel du Japon, et donc là une fois de plus ça nous a permis de passer un cap supplémentaire et tout a été dans le bon sens et voilà.
Alors après il y a une victoire aussi à Oschersleben, il y a un podium, une troisième place sur le Slovakia Ring en Slovaquie, et puis on en arrive à la course. Tu parlais des 24 heures du Mans, mais il y a aussi la deuxième grande course la troisième grande course de ce calendrier avec le Bol d'Or, c'est Suzuka, là où il y a des pilotes qui viennent du MotoGP, il y a des pilotes qui viennent du championnat du monde de Superbike, les constructeurs japonais sont présents officiellement, et donc cette course forcément elle revêtait, c'est la dernière de la saison, elle revêt une importance incroyable pour tout le monde, y compris pour vous, puisque vous n'avez pas trop le droit à l'erreur face à votre adversaire au championnat qui est le GMT 94 de Christophe Guyot. Donc comment aborder une course dans laquelle on veut à la fois briller mais qui est importante pour le titre? Comment on fait?
Premièrement, quand j'ai intégré ce team, mon premier objectif, en fin de compte, je savais que c'était une moto factory pour auditeur des Suzuka. Donc pour un pilote comme moi qui vient spécialement de l'endurance, qui n'est pas arrivé du MotoGP ou du Superbike, être sur une moto comme celle-ci, c'était déjà un rêve. Donc déjà, c'était et pouvoir se comparer avec les meilleurs pilotes du monde, c'était quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, et heureusement pour nous, nous sommes arrivés en tête du championnat du monde. Et l'objectif premier de Honda et de tous nos partenaires, c'était d'être champion du monde. Et le mien aussi, c'était mon objectif, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait pas, quand on tombe sur les meilleurs pilotes du monde, on peut pas se permettre de jouer sur deux tableaux différents. Donc le titre et ensuite un bon résultat sur la course. Donc il fallait très rapidement accepter qu'on n'était pas là pour faire un résultat à Suzuka, on était juste là pour être champion du monde. Et donc je pense que c'était ça la pression, la frustration qui était un petit peu difficile à accepter parce qu'on avait du matériel qui était extraordinaire et il fallait rester très très serein sur la moto et pas se donner à 100%. Et je pense que pour un pilote et pour, je pense aussi, n'importe quel sportif, ne pas être à 100%, c'est vraiment la chose la plus difficile parce que c'est là où on peut faire des erreurs. Donc voilà, il faut rester concentré sur ces courses-là et puis pour ce titre, je pense qu'on a eu une course qui était très agité parce que on venait la veille de la course, il y a eu un typhon, il y a eu énormément d'averses. Donc il fallait vraiment pas faire d'erreur. Donc d'un côté, on avait quelque chose à gérer qui était extrêmement difficile, mais d'un autre côté, on savait qu'on n'avait pas la nécessité de se donner à 100%. Donc dans des conditions qui sont extrêmement dangereuses, on avait la possibilité de pas prendre de risques les premiers tours pour prendre vraiment pour voir l'état de la piste et prendre nos marques correctement.
Si je puis dire, c'est presque du stress avec sérénité confondu. En tout cas, ça a été la cinquième place, juste devant justement l'équipe GMT 94, qui ont fait donc la conclusion, c'est que ton équipe TCR FCC Honda France, d'ailleurs n'oublions pas la présence d'Honda France
c'est important
de le souligner, est championne du monde, première équipe japonaise à donc devenir championne du monde d'endurance, avec Alain Teucher qui sort de la filière de la FFM aussi, ça aussi c'est important de le souligner, avec Joshua Hook, le pilote australien, et donc avec toi Freddy Fauré. Un grand merci à toi d'être venu sur l'antenne d'RMC, et puis la saison reprend très vite, ça sera avec de nouveau le Bol d'Or fin septembre.
C'est ça, merci à vous et merci de votre invitation.
Bravo encore et à bientôt Freddy.
Merci, au revoir.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Patrick Rivet.
Et un petit tour sur l'actualité internationale dans quelques instants.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et Radio Paddock avec surtout deux roues, Benoît Boutron.
Oui, effectivement. Salut Patrick, salut à tous. On va s'intéresser aux deux roues. Vous le savez, grand week-end de moto avec ces grands prix de République Tchèque à Brno. Et deux résultats déjà à vous communiquer. La Moto3 qui s'est terminée ce matin avec la victoire de l'Italien Fabio Di Gianantonio. C'est sa première victoire en carrière en Moto3. Il s'est imposé devant son compatriote Aaron Canet. Troisième place pour le Tchèque Jakub Kornfeld qui était parti en pole position. Mais voilà, une victoire pour Di Gianantonio. Et le Moto2 vient de s'achever également avec là une victoire portugaise, celle de Miguel Oliveira sur KTM. Deuxième victoire de la saison pour lui, toujours à Brno. Il est, en plus, il en profite pour prendre la tête du championnat du monde. Il a devancé Luca Marini. On en a beaucoup parlé de Luca Marini.
Oui.
Pourquoi? Demi-frère de Valentino
Absolument.
Rossi. Il avait réalisé la pole. On croisait les doigts pour qu'il puisse remporter le Grand Prix. Pourquoi pas? Il n'a pas réussi. Il se contente de la deuxième place. Et puis un autre Italien complète le podium. C'est Francesco Bagnaia chez Kalex. Une nouvelle d'un pilote français, Quartararo, Fabio
oui,
Quartararo,
bah oui,
qui
tiens,
a connu
donne-nous ça un petit peu.
Un nouveau week-end compliqué. Il termine 11e aujourd'hui encore. Mais Quartararo, c'est notre premier sujet. Je voulais t'en parler. C'est l'actu de la semaine en MotoGP, puisque l'année prochaine, il ira en MotoGP chez une équipe satellite de Yamaha, Yamaha Stick Petronas. Énorme nouvelle et quelle opportunité pour Quartararo.
Oui, franchement, c'est absolument. On est dans les transferts choc. Hein, on l'a été tout à l'heure en Formule 1 avec Daniel Ricciardo. On a vu quelles pouvaient être les conséquences de ce transfert sur les couleurs françaises, ouais, comme Pierre Gasly ou Esteban Ocon. On aura bien sûr largement l'occasion d'y revenir. Bah, pour ce qui est des MotoGP,
incroyable,
parce que cela, franchement, si on regarde dans les années qui précèdent le MotoGP, deux pilote français en MotoGP la saison prochaine. Johan Zarco, bien sûr, incontournable, parce que il s'est imposé comme l'un des meilleurs pilotes du monde dans cette catégorie, et puis rejoint donc par celui qui, il y a quelques années, était considéré comme l'espoir du sport moto français.
Et international.
Et international.
On peut rappeler un peu la carrière de Quartararo, hein. À 15 ans, il devient le premier pilote de l'histoire à gagner deux fois d'affilée le championnat d'Espagne Moto3.
Absolument.
C'était quand même un record de précocité. On sait que la Moto3, il y a de très jeunes pilotes, c'est là qu'on détecte les champions. Tout de suite, il a fait deux saisons de Moto3 assez moyennes. On était étonnés déjà de le retrouver en Moto2 cette saison, même s'il y a une victoire pour lui cette année à Barcelone. Et là, transfert surprise.
Transfert surprise.
Une seule saison en Moto2 et directement en MotoGP avec un guidon Yamaha. Équipe satellite, mais
oui,
une moto, pas mal, c'est déjà une opportunité exceptionnelle.
C'est exactement, on le sait, le MotoGP, la Dorna a envie d'avoir une équipe officielle et une équipe satellite pour chacun des constructeurs. Et ces équipes, elles sont bien là pour ça. Elles sont là pour former les futurs grands pilotes et pour former les jeunes. Si on faisait une petite référence, encore une fois, à la Formule 1, c'est ce qui est en train un petit peu de s'opérer aussi avec des équipes comme Force India, Toro Rosso. Donc, les deux grands championnats mondiaux ont tous
c'est
les
ça.
Deux la même philosophie. Il faut former les jeunes. Et bien, tant mieux pour Fabio Quartararo, dont on pensait, effectivement, en début de saison, que la carrière prenait plutôt une mauvaise tournure. Eh bien non, tant mieux, il a gagné en Espagne, il a fait deuxième à Assen lors du Grand Prix suivant, et ça a suffi pour le remettre sur le marché de jeunes pilotes. Tu parlais de Francesco Bagnaia, il sera aux côtés de Jack Miller l'année prochaine chez Alma Pramac. Miguel Oliveira, qui lui a remporté le Grand Prix tout à l'heure en Moto 2, sera chez Tech 3 puisque Tech 3 devient l'équipe satellite KTM.
Mais on va pas se mentir, c'est aussi pour ça que Quartararo a été recruté par Yamaha, c'est parce que les top pilotes Moto 2 avaient déjà été recrutés pour piloter en MotoGP la saison prochaine. Il y aura
Absolument.
Beaucoup de bouleversements.
Voilà.
C'est un sacré concours de circonstances qui permet aux Français de découvrir la catégorie reine, en fait.
Oui, mais c'est intéressant à plus d'un titre. Je rajouterai également Joan Mir, hein, qui est lui carrément pilote officiel Suzuki à remplacement de Iannone. Bah, tout ça, ça fait monter des jeunes, ça prépare des jeunes à la discipline quand même qui est très compliquée, qu'est le MotoGP. Et si on voulait rebondir sur une autre actu de la semaine dans ce qui se passe dans le paddock des MotoGP, il faut faire attention et il faudra que les pilotes qui sont un petit peu caractériels et qui demandent des changements de chef mécanicien fassent
Exactement.
Attention parce qu'il y a la relève qui arrive derrière.
On va expliquer où tu veux en venir. Maverick Vinales, ça y est, c'est officiel, il va se séparer de son chef mécanicien Ramon Forcada et ça se passe très mal chez Yamaha puisque Forcada l'a appris par voie de presse. Vinales a fait une déclaration déclaration en disant que dès la saison prochaine, il retrouverait celui qui l'a accompagné notamment lors de ses succès en Moto 3. Donc Forcada a été très surpris. Chez Yamaha aussi, on a été surpris. On a interdit la communication entre Forcada et Vinales. Ça va très loin cette histoire, sauf que le problème, c'est qu'il faut terminer les 6 derniers mois ensemble. Alors comment imaginer qu'il lui prépare une moto compétitive avec tout ce qui se passe entre les deux? C'est quand même incroyable comme situation.
Alors je pense que l'expérience de Ramon Forcada, il faut le dire à nos auditeurs qui sont peut-être bloqués dans les bouchons, Ramon Forcada, c'est quand même un chef mécanicien. Alors le chef mécanicien en moto, c'est quelqu'un de, c'est un rouage extrêmement important.
Bien sûr.
C'est lui qui fait la liaison entre le pilote et les ingénieurs. Il n'y a pas comme en Formule 1 une relation directe pilote-ingénieur, c'est lui qui fait passer les infos. Il faut qu'il y ait une confiance absolue entre les deux, mais c'est aussi quelqu'un qui a quand même remporté 3 titres de champion du monde avec un certain Jorge Lorenzo quand ce dernier était chez Yamaha. Donc ce n'est pas n'importe qui. Donc là c'est vraiment une question purement personnelle et purement relationnelle. Manifestement Maverick Vinales n'a pas confiance, parce que ça doit être ça aussi, la relation entre un chef mécanicien et un pilote, n'a pas confiance.
Exactement ça.
Et dans, il lui donne des infos, il a l'impression que les infos qu'il lui donne ne sont pas retransmises correctement par exemple à l'ingénieur des amortisseurs, des suspensions, des moteurs, etc. Et donc, cela entretient d'un seul coup une frustration intense de part et d'autre, surtout de la part du pilote, parce que celui qui est sur la machine, c'est le pilote, et celui qui n'arrive pas à faire les chronos de son copain qui est dans le garage d'à côté, c'est Vinales. Donc Vinales, après, entre guillemets, excuse-moi l'expression, mais il est un peu pété
voilà,
un câble.
On va pas se mentir, carrément. C'est un peu chercher des excuses aussi pour Vinales, qui n'y arrive plus, qui avait très bien démarré chez Yamaha la saison dernière, on voyait déjà un futur champion du monde. Et finalement, tout s'est écroulé. Il a du mal à faire les podiums. Et surtout, il partira 12e sur la grille aujourd'hui. C'est terrible. Il était même pas en Q2, Maverick Vinales. Ouais. D'ailleurs, la pole réalisée par Andrea Dovizioso aujourd'hui.
Andrea Dovizioso.
Devant Valentino Rossi et Marc Marquez.
C'est ce que j'allais te dire. Valentino Rossi, 39 ans, toujours là, qui lui incroyable. Ne change pas de mécano. Si, il l'a fait il y a quelques années, quand il a compris que sa relation avec Anthony Burgess, avec qui il avait été depuis ses débuts en moto, même en 500, en Grand Prix 500, était arrivé à son apogée, à son terme, techniquement parlant, entre guillemets.
Ce qu'on peut voir dans notre sport, l'athlétisme, par exemple.
Exactement.
Quand il y a une relation, ou en tennis, quand il y a une relation trop forte entre l'entraîneur et le sportif, forcément, c'est le temps de changer.
À un moment donné, il faut se remettre en question, et parfois, cela peut passer. Alors, pour Vinales, ça peut être ça aussi, hein.
Ouais.
Il peut se remettre en question lui, et pour cela, il demande un changement de chef mécanicien. Bon, il aurait pu le faire peut-être d'une façon un peu plus diplomatique.
Ouais.
Et, parce qu'effectivement, toutes les questions peuvent se poser pour ce qui pourrait être la relation et leur moto d'ici à la fin de la saison. Pendant ce temps-là, Valentino Rossi, lui, joue même très bien avec cette deuxième place.
Exactement.
Non, peut-être pas pour la gagne, mais pour passer le cap des 6000 points en championnat du monde, ce qui serait un record absolu.
Un grand prix qu'on va suivre à partir de 14h sur RMC, la République tchèque, avec Johan Zarco qui, lui, partira 7e. Une dernière info, rallye pour terminer. Citroën qui commence à ouvrir des négociations avec Sébastien Ogier. On vous en reparlera dans les semaines d'avenir, mais c'est important. Déclaration officielle de directeur de l'équipe Citroën, Pierre Budard, qui a dit effectivement, on est en discussion avec Sébastien Ogier, qui sera en fin de contrat chez M Sport à la fin de la saison.
Absolument.
Ce serait quand même génial de retrouver Ogier chez Citroën.
Eh bien, tu sais pas, on lui posera la question la semaine prochaine, puisque Sébastien Ogier sera notre invité dans Motors. Merci Benoît.
Merci
dans
toi,
quelques
Patrick.
Instants. C'est un marathonien qui rejoint pour cette Intégrale Sport, Jean-Christophe Brouet.
Un mauvais marathonien, parce que je fais le marathon en 6h, moi. Hein. 10h, 13h, 14h, 17h, c'est quand même pas un super temps. Merci beaucoup, Patrick. Quel couteau incroyable, suisse, ce Benoît Boutron. Il parle de Paris Sportif, évidemment. Il fait la MotoGP, il fait Motors, et puis dans quelques instants, il commentera pour RMC, lui le spécialiste aussi de foot, la rencontre Chelsea-Manchester City. On revient dans quelques instants pour vous parler des championnats européens. D'ailleurs, il y aura un champion avec nous, Jimmy Vico, invité de l'Intégral Sport. A tout de suite sur RMC.